sur Sandou et je suis courtier immobilier avec la Lepage Tradition. Et aujourd'hui, je rencontre Mazuolo, qui est un artiste entrepreneur. Mazuolo, dis-moi s'il te plaît, c'est quoi un artiste entrepreneur?
Ben, d'abord, là, je veux te remercier de me recevoir puis de m'accorder ma première entrevue. Puis, sans le savoir, tu me poses une super bonne question. Qu'est-ce qu'un artiste entrepreneur?
Exact.
Je vais te donner une réponse simple. Un artiste entrepreneur, c'est un artiste qui gère lui-même sa carrière. C'est-à-dire qu'il fait sa gestion, son administration, ses ventes, sa service aux clients, sa promotion, tout son marketing, toute son image de marque, c'est lui qui s'occupe de ça. C'est simple que ça. Pourquoi qu'on n'entend pas tout ça plus souvent, le terme artiste entrepreneur? Ben, au Québec, puis sûrement à beaucoup d'autres endroits, c'est qu'on associe beaucoup l'artiste à l'artiste marginal, qui est pas organisé, qui est de la gauche. Puis surtout, on le distance de la droite capitaliste, de l'entrepreneur. Okay? Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit complètement indépendant du désir financier pour pouvoir créer librement.
Être un artiste.
Fait que tu comprends qu'il y a comme une opposition entre les deux concepts, entre artiste puis entrepreneur.
Oui, je comprends.
Moi, ma vision, c'est que oui, c'est correct qu'un artiste tend vers la gauche, OK? Puis plus qu'il va être au centre, c'est qu'il va chercher la sécurité, qu'il va chercher à reproduire, puis il va avoir un pattern qui va être récurrent. Puis ça va se rapprocher de l'artisanat.
Okay. OK?
Puis plus qu'il va s'éloigner, plus qu'il va devenir exclusif, qu'il va chercher à faire quelque chose de nouveau, puis à offrir quelque chose de nouveau.
OK.
Par exemple, Vincent Van Gogh, lui, il est réputé d'avoir vendu qu'une seule toile de son vivant. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une offre qui dépassait ce que les gens étaient capables de recevoir à ce moment-là, mais visiblement, il avait visé juste parce que c'est un des grands artistes. OK? Puis, rendu à l'extrême, l'artiste cherche quelque chose d'unique, d'exclusif. Hein?
Exact.
De l'autre côté, l'entrepreneur de la droite, même chose, on a tendance à dire, ben, lui, l'entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en faire beaucoup. Pour chercher plus de profit. Puis c'est une partie de la réponse. Puis, un entrepreneur, même après, s'il cherche à jouer safe, il va faire quelque chose que quelqu'un fait déjà, puis il va faire copier-coller, puis il va livrer sur le volume.
Exactement.
C'est le concept de l'offre et de la demande, tu sais. Fait qu'il va répondre à une demande, puis il va en donner beaucoup, puis il va faire son argent comme ça. Fait que oui, dans cette vision-là, si on associe l'artiste à l'entrepreneur, il y a une opposition qui ne fonctionne pas. Mais si on pousse le concept un petit peu plus loin, c'est que l'entrepreneur peut chercher à monter son volume, mais ce qu'il peut faire aussi, c'est chercher l'exclusivité. C'est-à-dire arriver sur le marché avec un produit que personne offre.
OK. C'est justement ça que j'avais comme question quand on s'est parlé. Je t'ai suivi beaucoup sur Instagram et Facebook. Et je vois que Mazuolo, arte exclusiva.
Oui.
Donc, tu parles d'art exclusif.
Oui.
J'aimerais savoir, c'est quoi tu fais de si différent que ça, les autres?
Ben c'est ça. J'ai mon côté artiste qui est très développé, qui cherche à faire quelque chose de nouveau.
OK.
Puis j'ai mon côté entrepreneur qui cherche également à offrir un produit qui est exclusif.
OK.
Donc, au lieu d'avoir une vision linéaire, que ces deux facettes-là s'éloignent, moi j'ai une vision qui est très sphérique, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent pour mieux se rejoindre en haut, pour être capable d'aller offrir un produit qui est complètement unique. Okay? Puis c'est de là qu'est né mon concept de arte exclusiva. Donc pour être unique à la base, dans le fond j'ai choisi un médium, la résine. Puis ce que je fais pour me distinguer, c'est que j'incorpore des pigments directement dans ma résine, puis je peins avec ça. Fait que ce que vous voyez, la finition high gloss, les textures, les couleurs, c'est littéralement mon médium qui donne ce fini-là. Fait que la pigmentation est directement dans la résine.
Okay.
C'est monté en épaisseur. Ça me permet de faire des effets de couche, des effets de profondeur.
Okay.
Je vais chercher des pigments qui sont métallisés pour des effets de lumière. Fait que mes œuvres sont très réactives à l'environnement. Puis dépendamment du moment de la journée qu'on va l'observer, en fonction des éclairages, l'œuvre va évoluer. Okay? Puis ce que je fais, ben, je vais ainsi faire des insertions d'or 24 carats. Je vais faire des insertions de cristaux Swarovski, de pierre, pour donner des textures.
Ah ouais?
Puis je travaille toujours avec une finition très très impeccable. Fait que j'ai poussé l'exercice encore plus loin. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres dans le grand format. Fait que ça a été un de mes défis techniques, dans le fond, de pouvoir grandir mes formats tout en maintenant un poids qui est quand même raisonnable. Puis j'ai développé un système de cadrage d'aluminium que j'installe avant de faire l'œuvre. Je fais mon sans soudure, je fais ma finition de mon cadrage, puis ça vient servir de réceptacle à mon œuvre d'art. Puis je l'utilise comme cadre de coulage, puis j'exécute mon œuvre directement dans ma cadre de coulage. Fait qu'une fois que l'œuvre est terminée, le cadre est fini avec son cadrage qui est intégré. Ça donne une super belle définition. Ce concept-là que j'ai développé me permet d'aller dans le grand et le très très grand format. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai terminé une toile de 5 pieds de haut par 10 pieds de large pour un poids d'environ 120 livres. Fait que le défi technique est vraiment très très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, c'est très très exclusif. Insertion d'or 24 heures, Swarovski, patata. OK? Puis je vais venir installer ça avec des supports haut de gamme qui viennent séparer l'œuvre du mur pour que le cadre soit distancé du mur, un peu comme on ferait avec un téléviseur à écran plat.
Et le but de distancer du mur, c'est
que ça soit très dégagé. Okay? C'est très propre, ça fait finir très très épuré.
Mm-hmm.
Okay? Puis ça c'est dans ma collection Risen Art. J'ai également une deuxième collection qui est ma collection Sculptura, que je pousse l'exercice encore plus loin. C'est que je viens incorporer des éléments de sculpture qui sont plus figuratifs. Puis il y a une fusion entre le monde figuratif de la sculpture et de ce qui est beaucoup plus abstrait de ma technique que j'utilise par coulage. Puis ces deux œuvres-là viennent se fusionner ensemble vraiment pour des œuvres très, très, très distinguées et exclusives.
Ça doit être beau.
C'est très beau. Je l'espère.
Oui. J'aimerais savoir le nom Mazzuolo. Ben, ça vient de où?
Oui, il y a beaucoup de monde qui me pose la question. Mazzuolo, oui. C'est quoi c'est Mazzuolo? Je suis italien, mais ma femme est italienne. Puis quand le concept Arte Exclusiva est né dans mon esprit, je savais que je voulais faire du haut de gamme puis de l'exclusif.
OK.
Ça, c'était clair dans ma tête.
OK.
Puis, l'entrepreneur en moi savait déjà qu'il fallait qu'il attaque le brand de mon. De mes œuvres, il fallait que je trouve un nom d'artiste qui était distinctif puis que visuellement que les gens allaient se retenir. Fait que Mazzuolo, c'est un nom qui est facile à retenir, c'est un Maz avec un double Z puis ça finit Olo comme deux yeux puis un nez. Puis qu'est-ce que ça veut dire Mazzuolo? Ça veut dire maillet. Maillet qui est un des deux outils de la sculpture. Parce que c'est là que ça a commencé toute ma démarche artistique, c'est avec la sculpture, c'est par là que j'ai commencé par la sculpture. Sculpture sur bois. Okay. Maillet qui est un outil de travail. Fait que j'ai tout bâti ma signature visuelle alentour de ce nom d'artiste-là, ce pseudonyme-là que je me suis approprié.
Parfait. Mazzuolo, tu as une accession fulgurante. Dans les derniers mois, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement, s'il te plaît.
Ben, absolument. À la sortie du secondaire, j'ai fait des DEP, un DEP en industrie, dans lequel j'ai appris beaucoup le travail du bois et la sculpture sur bois. Puis ensuite de ça, j'ai fait un DEP en finition de meubles. J'ai appris les systèmes de finition, j'ai appris les systèmes de couleurs, les agencements. Puis j'ai travaillé un petit peu dans le domaine. C'est pas, ça ne m'a pas touché parce que je m'éloignais beaucoup de la création une fois sur le marché de l'emploi. Puis c'était très beaucoup de la production. Beaucoup de séries, l'assemblage. Okay. Je me suis détaché très rapidement de ça, je me suis réorienté, puis j'ai fait carrière dans le domaine public.
Okay.
Puis c'est ça, j'ai encore une super belle carrière parallèle que j'adore. Par contre, après 12 ans, j'avais cette flamme-là dans moi qui était encore là, puis qui avait besoin de sortir, puis de plus en plus, c'est quand on travaille dans la fonction publique, restreint, on sait qu'est-ce qu'on fait, on sait qu'est-ce qu'on en fait, mais il n'y a pas beaucoup de liberté.
Exact.
J'avais cette, on peut appeler ça une frustration qui grandissait en dedans de moi, un besoin de création qui grandissait, qui n'avait jamais été vraiment éteint, mais avec le temps, ça devenait clair que je voulais faire quelque chose. Fait que ça a commencé comme ça. Je savais déjà que je voulais aller, comme j'ai dit tantôt, je savais déjà que je voulais aller dans le haut de gamme puis dans l'exclusif. Fait que ça, c'était clair pour moi. Puis quand j'ai commencé, j'ai tout de suite attaqué des défis de taille. Puis je me suis enligné sur la résine parce que je savais que c'était difficile, mais je sentais que j'avais les ressources pour le faire avec tout mon background d'ébéniste finisseur.
Mm-hmm.
Fait que j'ai commencé par essai-erreur parce que dans, tu sais, il n'y a personne qui fait ça.
C'est ça, j'en ai pas vu comme ça ici, dans la région au Québec. Donc c'est sûr que.
Et même au niveau mondial, c'est super rare. Ouais. Puis.
T'es un des premiers.
Je suis un des pionniers dans ce médium-là, vraiment, avec lequel j'utilise pour peindre.
Okay.
Fait qu'il y avait personne que je pouvais me tourner
okay.
pour aller chercher de l'information puis avoir des réponses. Il fallait que j'aille par essai-erreur. Fait que c'est toute cette approche par résolution de problème qui a formé ma démarche artistique. Fait que chaque problème que je rencontrais était une motivation à continuer puis à continuer à pousser. Puis je savais que plus c'était difficile, puis plus que je trouvais les réponses à ces difficultés-là, plus je me rapprochais de mon désir de créer quelque chose d'exclusif. Ça a été beaucoup ma motivation. Puis Dieu sait que j'en ai eu beaucoup de problèmes. C'est incroyable, tout l'investissement en temps, ça doit, puis en argent, en essai-erreur que j'ai fait pour pouvoir arriver au produit qui continue à évoluer. Là. Mon produit est en constante évolution.
Et tu n'avais pas de mentor?
Non. Ben, j'avais des ressources dans la résine, des ressources dans l'art, mais dans ce que je m'en allais, j'avais personne. Mm-hmm. La façon que je travaille la résine, mais moi, c'est dans le fond, je travaille les propriétés de la résine. J'essaie pas d'avoir un fini parfait, je travaille avec les imperfections. Puis certaines imperfections qui sont considérées comme une imperfection dans le domaine du plancher ou des revêtements,
okay.
Moi, je vais l'utiliser à mon avantage, puis je vais aller chercher de la texture et des effets avec ça.
Qui donne de la valeur.
Ben oui, c'est
ça.
Ben exactement. On veut okay. pas avoir on fait pas du copier-coller, on fait quelque chose qui est unique. C'est une matière qui est très réactive. Puis moi, comme artiste, je dois être réactif à ma matière. C'est-à-dire que je pars avec une idée d'où c'est que je m'en vais. Mais ce que la matière me donne, c'est pas tout le temps qu'est-ce que j'ai en tête. Puis je dois être capable de répondre à la réaction de la matière pour pouvoir continuer à faire évoluer mon art. Puis de me détacher de mon image première. Mm-hmm. Fait que c'est tout là. Le paradoxe de ma démarche, c'est que il y a un grand technicien en moi
okay.
qui organise mon travail parce que la résine, c'est un tableau du tisseur qui fonctionne par queue. C'est un mélange de deux composantes. Puis une fois que les deux composantes sont mélangées, le timer est parti. Fait que ça va très très rapidement, il faut être extrêmement organisé. Fait que j'ai cette facette-là de ma personnalité qui est très organisée, très linéaire, très cartésienne.
Okay.
Mais j'ai aussi un côté qui est très artistique. C'est-à-dire que je suis capable au moment crucial de me détacher de mon idée puis de créer au fur et à mesure en fonction de la réaction de la résine. Puis c'est là que je travaille puis que je viens créer des effets spectaculaires.
OK. Donc, merci pour expliquer ton cheminement. Je sais que pour être entrepreneur, on a besoin d'un mindset
ouais.
qui est spécifique à un entrepreneur.
Ouais.
Et j'aimerais que tu en parles un peu. Pour toi, c'est quoi qui est important comme mindset quand on débute une entreprise?
Ben, c'est une bonne question. Moi, pour ma part, c'était la peur. Tout se jouait sur la peur parce que je suis un perfectionniste. Puis on sait que les perfectionnistes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'analyse. Puis si vous êtes des entrepreneurs, je suis sûr qu'il y a beaucoup de vous autres qui allez reconnaître là-dedans. C'est que les perfectionnistes, on est dans l'analyse. L'analyse amène la peur. Puis quand on a peur, on fige.
Exact.
Fait que quand j'ai commencé ça, j'ai pris mes peurs, je les ai garochées pendant. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus. Mais quand j'ai commencé ça, je me suis dit, au pire, je finirais avec des vraiment beaux tableaux chez nous. Puis ça soit pire, puis c'est vraiment. Est-ce que c'est grave?
Non. Fait que tu vas faire des cadeaux à tout le monde pendant des années.
Fait que je me suis dit, dans le pire des cas, qui serait comme un échec, j'ai quand même réussi. Tu comprends? Fait que quand on se libère de cette peur-là, c'est fou. Puis après ça, j'ai juste comme foncé, foncé, foncé. Puis à toutes les fois que j'avais des difficultés, puis que je voulais abandonner, je me suis dit, non, si c'est difficile, c'est parce que c'est là que je m'en vais. C'est mon chemin, il est là. Puis j'ai poussé non-stop. Puis je pousse encore non-stop. Les premiers mois ont été difficiles financièrement parce que j'ai investi toutes mes économies pour pouvoir développer mon produit, puis faire des essais, puis travailler ma résine. C'est un médium qui est très, très dispendieux. Puis je travaille avec des matériaux qui sont très coûteux.
Mm-hmm.
Fait que j'ai eu une période de découragement parce que c'est pas. Moi, je n'offre pas un service. C'est facile quand on offre un service, il y a une demande, on offre le service. Si ça fonctionne, on va juste réoffrir le service, l'argent va rentrer, puis on va pouvoir valider ça. Alors qu'en or, c'est un petit peu plus compliqué, il faut arriver sur le marché prêt, puis fort, puis Puis, si tu t'en vas valider, tu risques de te brûler. Tu ne veux pas brûler ton produit, c'est parce que tu arrives déjà à faire ça. Il y a une grande période que j'ai créée et que j'ai rien vendu. On dit grande période. C'est quelque chose à mettre ça en perspective, mais pour moi, ça a duré 8 mois avant que je vende ma première œuvre.
Ouais. Mais c'est quand même pas si pire pour l'entrepreneur.
Non, c'est ça. C'est
avoir un retour pendant 8 mois.
Pour un artiste aussi, parce que des artistes qui travaillent pendant des années et qui sont à perte.
Van Gogh, probablement. Que...
probablement. Il
avait fait un tableau vendu.
Il a vendu un tableau et il s'est racheté d'autres tableaux pour en faire d'autres. Il n'a pas fait d'argent avec ça. Fait que moi, ça s'est passé. Dans le fond, j'ai fait mon premier symposium de peinture à Grosse-Étienne d'Abraham cet été. C'est là que j'ai fait mes premières ventes officielles majeures.
OK. Où est-ce que tu as fait ça?
Sur les plaines d'Abraham.
Les plaines d'Abraham, à Québec?
À Québec. Puis, ben plus que ça, c'est que ça m'a ouvert des portes vraiment incroyables. C'est tout a déboulé là. J'ai rencontré une juge en or qui a qualifié mon travail de bac concours. Elle était complètement épatée par ce qu'elle voyait. C'est quand même fou. Là. Moi, j'arrive là, c'est mon premier show. Elle a voit de l'or à tous les jours, puis elle fait des concours, elle juge des concours, puis elle voit mon travail, puis elle voit la qualité de ma finition qui se démarque sur le lot, puis elle dit ça, c'est des œuvres à concours. Tu sais, là, je dis OK, wow. Fait qu'elle me donne une référence, elle dit tu l'appelles lundi.
OK.
Fait que moi, je prends la référence, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Fait que cette référence-là, c'est Mireille Forget. Mireille Forget, qui est une sommité internationale en matière d'or. Elle est décorée plus de 70 fois à l'international, détentrice de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et de la République française.
Wow!
Fait, ça se passait le samedi. Ben, le mercredi suivant, j'étais assis avec cette dame-là dans son salon, puis on se parle. J'étais entouré de toutes ses médailles, de ses articles, de photos avec elle dans des palais, avec des princes. Et, fait, là, je comprenais aussi que j'étais assis à ce moment-là. Ça s'est passé super vite. La journée même, j'avais une toile qui partait pour la France, en Europe, pour une exposition. Puis, à mon grand étonnement, j'ai gagné une médaille d'or là-bas, en France, pour ma toile, pour Technique distincte. Hein? Fait que ça va dans le sens de tout mon cheminement de recherche d'exclusivité. Ça venait vraiment de valider tout mon processus créatif, puis ma raison d'être, puis vraiment toute l'importance de mon travail. Ça s'est pas arrêté là parce que suite à ça, toujours avec ce même contact-là, j'ai été approché pour exposer au Palais des Congrès. Fait que le Palais des Congrès, dans le fond, on sait qu'il y a des galeries au sous-sol.
Mais le Palais des Congrès à Montréal.
À Montréal.
OK.
Fait que le nouveau concept du palais, ils veulent commencer à remplir tout le palais de l'or. Fait que moi, j'ai été un des artistes chanceux sélectionnés pour afficher cet endroit-là. J'ai 5 grands formats présentement qui sont affichés au Palais des Congrès. Avec le Cercle des artistes peintres du Québec.
Mazzolo, tu as eu une médaille d'or en France, tu as été exposé sur les plaines d'Abraham et au Palais de Congrès de Montréal. Seulement après quelques mois que tu as débuté ton entreprise, c'est extraordinaire. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de ton entreprise Mazzolo Arte Exclusiva?
Ben, je vais répondre un petit peu plus général.
Okay. Okay.
Ça va être bon pour les auditeurs, qui sont probablement beaucoup des professionnels. Ce que les gens savent pas, c'est qu'au Canada, les œuvres d'art, on peut, comme professionnel, les inscrire comme investissement. Fait qu'il y a des avantages fiscaux très intéressants pour les professionnels qui investissent dans l'art.
Okay.
Fait que ça, c'est quoi qui n'est pas beaucoup connu. Mm-hmm. Dans le fond, les règles sont super simples. C'est à partir du moment que l'œuvre est vue par des clients, elle peut être admissible ou pas. Non. Fait que ça veut dire que si vous avez un bureau à la maison, puis vous recevez des clients à la maison, ben, vous pouvez bénéficier de ce programme-là là, en investissement. Là.
Parfait. C'est une excellente information pour ceux qui aimeraient se procurer des œuvres de Mazzolo. Et aussi, en ce moment, on est dans les temps des fêtes. Donc, c'est un très bon cadeau. Mazzolo, j'aimerais te demander pourquoi tu penses que c'est important que les gens achètent localement?
Ben, je vais répondre de façon générale en premier, puis après ça, je vais le rapporter à moi.
À ton entreprise.
Ouais. Fait que de façon générale, quand quelqu'un dans son entourage des artistes, ben c'est un bon moment de repérer les artistes émergents qui ont un potentiel de personnes.
Okay.
Parce que l'or, c'est un investissement reconnu.
Okay.
Hein, puis on sait qu'il y a des œuvres d'art qui se vendent des dizaines et des dizaines de millions de dollars. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est un investissement. C'est pour ça que les investisseurs sont prêts à payer ce montant-là. Quand on achète un œuvre à un montant, on vient de fixer son prix, puis après ça, l'œuvre va monter. C'est aussi simple que ça.
Okay.
Il existe un système de cotes pour les artistes. Puis plus la cote est bonne, mais plus l'œuvre vaut cher. T'sais. Quand on a dans son entourage, puis qu'on a des artistes, ben, on les regarde aller. Puis c'est pas tous les artistes qui ont le profil d'entrepreneur, puis que c'est facile de voir qu'ils vont passer. T'sais. Il y en a que c'est plus flagrant, il y en a que c'est moins flagrant. Mais c'est bon d'acheter de ces artistes-là quand on croit dans leur développement, parce que c'est eux qui ont le meilleur potentiel de croissance. Fait que si on achète un œuvre d'un artiste, quand il commence en carrière, puis 20 ans plus tard, c'est devenu un artiste internationalement reconnu avec une super de bonne cas, ben, ça va faire un très très bon héritage pour vos enfants. Puis, ben, si je ramène ça à mon expérience personnelle, pourquoi que le monde devrait acheter local? Ben, moi-même, comme artiste, ben, je suis un entrepreneur, puis j'achète mes matériaux. Que j'achète des cadrages, mon aluminium, mes tableaux, ma résine, mes colorants, mes pinceaux. Puis moi, je le fais localement. Fait que j'achète tous mes matériaux dans un rayon de 20 km. Fait que c'est ainsi, c'est nouveau qui tourne. Si on achète localement et qu'on s'habitue à acheter localement, ben c'est juste bon pour nous autres, c'est bon pour tout le monde.
Exact. Et en terminant, Mazzolo, j'aimerais savoir, tu as dit que tu as été présent au Plein d'Abraham, au Palais de Congrès de Montréal. J'aimerais savoir si les gens veulent tes œuvres, où est-ce qu'ils sont disponibles, où est-ce qu'ils peuvent voir tes œuvres.
Parfait. Bien, pour les gens de la Rive-Sud, vous pouvez voir mes œuvres à la galerie Signé Joie au quartier d'Istrampe. Les gens de Montréal, je suis exposé au Palais des Congrès au 5e étage, sinon dans l'édifice Bricks. Ensuite de ça, les gens Montréal et Nord, si vous voulez venir me rencontrer à mon atelier, je reçois mon atelier pour faire des présentations sur rendez-vous.
OK.
Puis ensuite de ça, ben, mon site internet www.mazzolo.art.
OK. Et tu es sur les réseaux sociaux parce que c'est là que je te suis. Instagram, Facebook.
Instagram, Facebook, même chose. Fait que le site web, Instagram, Facebook, super simple, c'est mazzolo.art.
Perfect. Et donc, tous les détails vont être dans la description sur l'article. Mon nom est Dragos Ruxandu, je suis courtier immobilier avec Royal LePage et j'aimerais beaucoup te remercier, Mazzolo, et de m'avoir accordé ta première entrevue. Et je te souhaite beaucoup de succès